2. Madame Sixby reconnut Clark pour l'avoir souvent croisé dans les couloirs, en train de pousser un balai ou de passer la serpillière, mais elle ne l'avait jamais vu comme ça. Il était d'une pâleur cadavérique. Ses cheveux gris étaient ébouriffés, comme s'il avait essayé de les arracher, et sa bouche était agitée de tressaillements nerveux. « Que se passe-t-il, Clark? Vous semblez avoir vu un fantôme. »«
Faut que vous veniez, Madame Sixby. Faut que vous voyez ça. »«
Quoi donc ?» Il secoua la tête et répéta
« Faut que vous voyez ça !»
Elle le suivit dans le couloir qui reliait le bâtiment administratif et l'aile ouest des résidents. À deux reprises, elle demanda à l'agent d'entretien ce qui se passait, mais chaque fois il secoua la tête en répétant qu'il fallait qu'elle voie par elle-même. L'agacement qu'éprouvait Madame Sixby d'avoir été dérangée commençait à disparaître derrière un sentiment d'angoisse. Un des enfants? Un test qui avait mal tourné, comme avec le jeune Cross? Non, sans doute pas. Un problème de ce genre aurait été découvert par un intendant, un technicien ou un des médecins, pas par un agent d'entretien. Au milieu du couloir quasiment désert de l'aile ouest, un garçon dont la bedaine dépassait de sous sa chemise, à moitié sortie de son pantalon, examinait une feuille de papier accrochée à la poignée d'une porte fermée. Voyant arriver Madame Sixby, il prit un air affolé, parfaitement justifié aux yeux de la directrice. « Oui, Paul, c'est bien ça ?»«
Ouais. »«
Pardon ?» J'ai mal entendu. Stevie se mordit à la lèvre inférieure pendant qu'il réfléchissait.
Oui, Madame Sixby.
C'est mieux. Maintenant fiche le camp. Si tu n'as pas le test à passer, trouve-toi une occupation.
Ok. Pardon. Oui, Madame Sixby.
Stevie décampa, non sans jeter un coup d'œil par-dessus son épaule. Que ne vit pas la directrice, concentrée sur la feuille de papier fixée à la poignée de la porte. Ne pas entrer, pouvait-on lire. Des mots sans doute écrits par Clark avec le stylo glissé dans sa poche de poitrine.
« J'aurais fermé si j'avais eu la clé », expliqua-t-il.
Les agents d'entretien avaient les clés des réserves du niveau A et des distributeurs pour pouvoir les remplir, mais pas celles des salles d'examen ni des chambres. D'ailleurs, ces dernières étaient rarement verrouillées, sauf quand un des résidents faisait des siennes et devait être cloîtré pendant une journée en guise de punition. Les agents d'entretien n'avaient pas non plus les cartes magnétiques qui commandaient les ascenseurs. S'ils avaient besoin d'accéder à un niveau inférieur, ils devaient être accompagnés d'un intendant ou d'un technicien.
Fred dit « Si ce gros gamin était entré, il aurait eu le choc de sa vie. »
Madame Sixby ouvrit la porte sans répondre et découvrit une pièce vide. Aucune photo, aucun poster au mur, juste un matelas nu sur le lit. Semblable en cela à un certain nombre d'autres chambres depuis une douzaine d'années, lorsque le flot d'enfants dotés d'un BDNF élevé avait commencé à se tarir. Selon la théorie du docteur Hendrix, cette qualité se dégradait peu à peu, à l'image d'autres caractéristiques du génome humain, comme la vue et l'ouïe. C'était peut-être une plaisanterie, ou pas. Avec Donkey Kong, on ne pouvait jamais être sûr de rien. Elle se retourna vers Fred.
« C'est dans la salle de bain, » précisa-t-il. « J'ai fermé la porte, au cas où. »
Madame Sixby ouvrit la porte et se pétrifia pendant une seconde. Depuis qu'elle dirigeait l'institut, elle avait vu tas de choses, y compris le suicide d'un résident et les tentatives ratées de deux autres. Mais elle n'avait encore jamais été témoin du suicide d'un employé. La femme de ménage, l'uniforme marron ne laissait aucune place au doute, s'était pendue au pommeau de la douche, qui aurait certainement cédé sous le poids d'une personne plus lourde, le jeune Whipple par exemple. Le visage inerte qui regardait Madame Sixby était noir et gonflé. La langue saillait entre les lèvres comme dans une ultime moquerie. Sur le carrelage mural, d'une écriture irrégulière, elle avait laissé un message.
« C'est Maureen, » dit Fred tout bas.
Il sortit de la poche arrière de son pantalon un mouchoir roulé en boule avec lequel il s'essuya la bouche.
« Maureen Alvorson. Elle... »
S'arrachant à sa stupeur, Madame Sixby regarda par-dessus son épaule. La porte de la chambre était restée grande ouverte. « Allez fermer ça. »«
Elle... fermez cette porte !»
L'agent d'entretien s'exécuta. Madame Sixby palpa la poche droite de sa veste de tailleur. Elle était vide.
« Merde, » se dit-elle. « Merde, merde, merde. »
Elle n'avait pas pensé à prendre son talkie-walkie. Mais qui pouvait s'attendre à une chose pareille ?«
Retournez dans mon bureau. Demandez à Rosalind de vous donner mon talkie-walkie et apportez-le-moi. »
« Vous, taisez-vous !»
Sa bouche n'était plus qu'un trait,
et ses yeux exorbités au milieu de son visage étroit incitèrent Clark à reculer d'un pas. On aurait dit une folle.
« Dépêchez-vous, et pas un mot à quiconque. »«
Ok, puis j'ai. » Fred ressortit de la chambre en prenant soin de fermer la porte derrière lui. La directrice se laissa tomber sur le matelas nu et regarda la femme suspendue au pommeau de douche. Et le message qu'elle avait laissé en se servant d'un tube de rouge à lèvres qui avait roulé devant la cuvette des toilettes. « L'enfer attend. Je serai là pour vous accueillir. »